d'avoir invité vos amis à venir écouter cette conférence voilà, sur l'histoire de la vaccination. En fait, c'est la troisième fois qu'Anne-Marie Moulin, amie de la maison, vient à l'espace Mauvaise France. Donc, elle se déplace, elle voyage beaucoup pour venir chez nous. Donc, d'abord, je commence par la remercier de sa fidélité, de son amitié, mais là. Voilà, c'est la fidélité à l'espace Mauvaise France. Et donc, quand j'ai demandé à Marie, il y a très très peu de personnes qui travaillent en France sur ce sujet, je dis tout de suite. Et donc, quand le comité scientifique s'est formé et qu'on a demandé de faire quelque chose sur la vaccination, et bien entendu que la personne humaine, c'est Anne-Marie Moulin, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris, spécialiste d'histoire des sciences et de médecine tropicale. Et donc, tu viens d'éditer un livre qui s'appelle Le médecin du prince, Voyage à travers les cultures aux éditions J. Jacob. Et nous déplorons, Anne-Marie et moi, et les fidèles, que ce livre, vous trouverez dans les très bonnes bibliothèques, soit épuisé, parce que c'est le seul ouvrage qui compile un retour de la vaccination. Et en effet, quand Anne-Marie est venue ici pour faire sa conférence sur le retour de la vaccination, j'avais des mails de tous les étudiants en médecine, ils me disaient où est-ce que je peux trouver, etc., un bouquin. Voilà, c'est dans les bonnes bibliothèques, puisque malheureusement il est épuisé. Anne-Marie aimerait bien le rééditer,
le modifier, le mettre à jour.
Voilà, donc Vaccin, Société, Histoire d'un Paris, c'est le titre de ta conférence. Donc on va t'écouter et je pense que la salle est prête aussi à discuter avec toi. Je te remercie en plus de faire de poser une autre problématique qui est en lien avec les problèmes actuels. Sociétaux et aussi avec notre exposition. Donc c'est toujours un plaisir de te voir à Poitiers, Marie Moulin. Merci.
Merci beaucoup, Anne. C'est devenu ça marche ?
Oui.
C'est devenu un peu un rituel de remercier pour un conférencier, etc. Donc je ne veux pas trop complaire à ce rituel, mais pourtant je veux dire un mot. C'est effectivement un peu l'amitié qui m'a amené ici. L'amitié. Et puis la vaccination. La vaccination, c'est quelque chose, il y a beaucoup d'années, quand j'ai fait ma thèse sur l'histoire de l'immunologie, mon patron de thèse à l'époque m'avait dit « Oh, la vaccination, un sujet ennuyeux, passez vite !» C'est tout résolu. Et à l'époque, je m'étais dit « Résolu. » Non, c'est pas résolu. J'avais raison. Je pense souvent à lui, une espèce de dialogue qu'on poursuit, en disant, mais non, c'était pas résolu du tout, et ça n'est pas ennuyeux, du moins je l'espère pour vous. Alors, je me suis interrogée sur le titre de l'exposition, Planète Vaccination. Je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire, Planète Vaccination? Il y a deux interprétations possibles. La vaccination, c'est une planète à découvrir, à explorer. Ça, c'est une première interprétation. Peut-être est-ce la bonne. La deuxième, c'est la vaccination, c'est quelque chose qui concerne la planète. Avec les mots composés, fabriqués avec deux noms, on ne sait jamais très bien dans quel sens ça marche. C'est la vaccination pour la planète ou la planète pour la vaccination. Et je me suis donc posé la question de savoir quelle était effectivement aujourd'hui la position de la... Des vaccins pour la planète. Des vaccins, parce qu'un deuxième problème tout de suite se pose. Souvent, on pose des questions sur la vaccination avec un grand V. Et je dis toujours, je ne vais pas répondre à des questions sur la vaccination. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas un article de credo. Il y a des vaccins, et on va discuter vaccin par vaccin. Même s'il faut admettre qu'il y a un principe général, qui est le principe de la vaccination, qui les relie. Mais quand on discute de l'opportunité du bien fondé d'un vaccin, de la vaccination, en fait, il faut discuter d'un vaccin pour telle et telle personne et telle ou telle maladie. C'est là une dialectique qui n'est pas toujours facile à saisir. Et dans la discussion, on peut remarquer combien souvent les personnes sautent du principe général de la vaccination au problème précis, concret, de tel ou tel vaccin auquel vous, nous, on est tous les jours confrontés. Alors, je dispose de combien de temps ? Hein ? À partir de maintenant ?
Ben oui, puisque nos amis n'étaient pas arrivés, alors...
C'est... Bon.
Voilà.
Ben, il faudra laisser quand même un petit peu de...
Ah oui, de toute façon, il y a du temps pour la discussion.
De temps pour la discussion. Alors... J'ai choisi une expression qui vous a peut-être un peu heurté, histoire d'un pari. Pourquoi d'un pari ? Précisément parce que j'ai voulu me situer à l'opposé d'une croyance ou d'une adhésion totale. Et je voudrais vous faire cheminer avec moi dans l'histoire, dans la découverte qu'au fond, la vaccination n'est pas un dogme, elle n'est pas une croyance, quoiqu'elle puisse être l'un et l'autre. Elle est en fait quelque part un pari qui comporte un certain nombre d'éléments d'incertitude ou l'acceptation d'un certain risque. Et c'est là que tout pivote aujourd'hui. Puisque, comme vous savez, jamais on a autant parlé aujourd'hui de risque et jamais autant parlé de sécurité. Et précisément, la vaccination ne se situe pas dans cette problématique simpliste du risque nul et de la sécurité 100%. Quelque part, elle se situe entre les deux, plus près peut-être de la sécurité que du risque. Donc, ce sont ces éléments que je voudrais parcourir avec vous en remontant dans l'histoire, mais en vous amenant à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui aux questions bien concrètes que nous nous posons tous dans la société et dans les responsabilités que vous pouvez avoir là où vous travaillez. Alors, je vais donc remonter avec vous à un passé lointain, d'abord. L'observation était incertaine, l'expérimentation embryonnaire et où on tâtonnait vers pour rechercher quelques éléments de certitude. Cette aventure continue, mais les choses sont en train aujourd'hui de changer radicalement. Ça a été un peu dit dans les discours qu'on a entendus tout à l'heure. On est un peu à un tournant de l'histoire vaccinale pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a progressivement abandonné, on continue à abandonner le régime de l'obligation. Et ça, c'est une transformation qui n'est pas scientifique, c'est une transformation sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gouvernements ne se sentent pas légitimés, ne se sentent pas non plus en mesure d'imposer quelque chose à leurs citoyens, pour de bonnes et de mauvaises raisons. Les deux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième étant que les vaccins se sont multipliés, que la complexité de la vaccination a grandi, que précisément au fur et à mesure qu'on savait plus de choses, on a compris encore plus combien nous avions d'inconnus, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous arrivons de plus près et pourtant le détail nous échappe. On le voyait bien, je n'avais pas vu l'exposition, je l'ai vu rapidement avec le présentateur que nous avons suivi, qui s'est lancé dans le système immunitaire. Et puis on voit bien à un moment que, enfin, il vous en présente quelques éléments et qu'en fait les choses sont extrêmement compliquées. Donc la complexité, la multiplicité actuelle des vaccins d'un côté, de l'autre, l'abandon de l'obligation pour la plupart des vaccins, y compris le BCG, font que nous sommes à un tournant dont nous ne savons pas très bien où il va nous amener. C'est ça que je voudrais discuter avec vous. Alors, L'histoire, c'est peut-être le plus facile. C'est vous rappeler que, en gros, l'histoire de la vaccination commence avec la variole, même si on pourrait trouver d'autres pistes. Mais au cours d'une heure, je ne vais pas explorer toutes les pistes possibles. Prenons celle bien connue qui part avec la variole. La variole, comme la plupart d'entre vous, la totalité d'entre vous, n'a jamais vu de cas de variole, y compris moi. Je suis trop jeune. J'ai vécu en France la première partie de ma vie, donc on ne voyait pas de variole. Donc j'ai une photo. Je l'ai choisie belle. La dame est belle. Il y a des photos horribles, je vous les ai épargnées. Mais pour que vous compreniez, en voyant ce visage, ce que c'est qu'une éruption varioleuse et le côté horrible qu'elle peut revêtir. Alors, la variole, c'est une affection, vous le savez, je suppose que vous savez plus de choses sur la variole que sur toutes les autres maladies. C'est une affection souvent mortelle, parfois cécitante, elle entraîne la cécité, elle frappe la cornée. Et de toute façon, si on en réchappe, au minimum, on a de vilaines cicatrices, au pire, elle défigure réellement. Et pourtant, c'est une maladie connue depuis très très longtemps, identifiée assez facilement parce que les pustules sont caractéristiques. Elle a été bien décrite par le médecin persan arabophone Razi au XIe siècle. Alors, pour prévenir cette maladie, dans l'histoire, on a décrit des méthodes pour obtenir une petite variole à minima avec des procédés différents. Le premier, c'est le procédé dit chinois. Vous voyez qu'un médecin introduit dans les narines d'un sujet, qui n'est d'ailleurs pas un enfant ici, un broyat de croûte de pustule avec une petite tige. Et le sujet prise, en général on traduit ça par priser, comme du tabac, et la personne est protégée à la prochaine épidémie de variole. Cette méthode était relativement dangereuse, elle était apparemment assez efficace, mais assez dangereuse, parce que quand vous injectez quelque chose dans le nez, vous êtes tout près du cerveau. Le cerveau repose sur ce que nous appelons en anatomie lame criblée, c'est-à-dire une mince lame osseuse, voyez, par derrière, vers les sinus. Et donc, le cerveau, il est tout près. Et le vaccin, qui est un vaccin vivant, peut provoquer assez facilement une méningite et une encéphalite. Donc là, on voit bien ce jeu, c'est le pari, entre le risque d'attraper la variole au cours d'une épidémie et le risque de faire une complication de ce procédé qui est appelé la variolisation, puisqu'on vous injecte une variole bénigne pour éviter la vraie maladie. Alors, deuxième méthode, dite turque pour simplifier, c'est une méthode à l'aiguille, c'est-à-dire on pique un point du corps et avec un petit peu de pus d'une pustule, et ce procédé a été rapporté, alors longue histoire, l'épisode décisif pour l'Europe, c'est l'ambassadrice, la femme de l'ambassadeur d'Angleterre, Lady Montagu, qui est ici représentée avec son fils à Istanbul, parce qu'à Istanbul, elle prend connaissance de cette méthode et elle rentre en Angleterre, la fait connaître à la cour, et c'est le début d'une diffusion en Europe, donc au tout début du XVIIIe siècle. Alors, ce qui est important, c'est que ce choix d'inoculer la variole, que Lady Montagu a fait pour son propre fils, ici représenté, c'est un pari. À l'époque, D'Alembert, le mathématicien, Bernoulli, un autre mathématicien, s'appuie sur des arguments mathématiques pour dire, en fait, c'est un pari. Vous avez une certaine probabilité de contracter la variole au cours d'une épidémie. Vous avez une certaine probabilité de mourir d'une méningite, pas d'une méningite, d'une complication de la variolisation. Voilà, c'est à vous de choisir. Alors, la difficulté pour un père de famille, et c'est souvent en ces termes que ça se posait, c'est « mon fils n'a pas la variole. Je lui fais courir le risque de mourir de variole. Mais ce risque est moins grand que le risque de mourir de variole plus tard. Qu'est-ce que je choisis ?» C'est ce que j'appellerais le dilemme du père de famille. Ça, c'est pour la morale. Statistiquement, Bernoulli et D'Alembert calculent, vous avez des pourcentages, mais vous savez très bien qu'on ne se décide pas dans sa vie à coup de pourcentage. Quand vous prenez votre voiture, vous ne consultez pas la probabilité que vous avez de vous planter contre un camion entre Poitiers et Paris. Vous n'agissez pas à coup de probabilité. Vous agissez parce que vous voulez aller voir votre sœur ou un ami ou un film ou Dieu sait quoi à Paris. Vous voyez bien donc que tout dans la vie est un peu un pari, mais qu'encore faut-il avoir un pari informé, c'est-à-dire quand même avoir une idée réelle, d'une part des risques encourus, et aussi des enjeux. Est-ce que c'est très important que vous alliez à Paris ou pas? Alors, ce qui est important aussi, c'est que les gouvernements, avant même la Révolution, se passionnent pour ce procédé de l'inoculation. Ils réalisent que dans un pays où la variole emporte chaque année une grande partie de la population et donc fait courir au royaume un risque, celui d'une dépopulation, c'est important et de développer la variolisation. Cette variolisation, elle laisse une trace. Cette trace est une cicatrice. Mais ce n'est pas une cicatrice comme la variole qui défigure, c'est une petite cicatrice. Et cette cicatrice, elle atteste la vaccination. Je pense probablement que personne dans la salle, vu votre âge apparent, n'a de cicatrice de la vaccination contre la variole. Mais dans mon enfance, très très souvent, quand on retroussait la manche, il y avait là quelque chose qui était très vilain, qui était une cicatrice de vaccin contre la variole. Et je me souviens que mon père, qui était un moderne, me l'avait fait faire au pied, parce que le pied, il repose par terre, on montre rarement la plante du pied, pour séduire quelqu'un. Donc, je n'ai pas de cicatrice là, alors que j'ai été vaccinée, ce qui n'est probablement pas le cas de la plupart d'entre vous. Comme bien sûr, je n'ai pas de cicatrice de variolisation antérieure à la Révolution à vous montrer, je vous montre une cicatrice avec une mauvaise photo qui date de 1900 dans un journal de médecine coloniale qui montre la main d'un Algérien qui a été variolisé. Et en Algérie, comme dans beaucoup de pays arabes, on variolisait entre le pouce et l'index. Et très honnêtement, je ne sais toujours pas pourquoi. Alors, en 1798, va intervenir un événement considérable, c'est qu'on va passer de la variolisation à la vaccination. Attention, la vaccination à cette époque, ça veut dire spécifiquement et uniquement la vaccination contre la variole. C'est un nom propre, si on peut dire. Et cette vaccination, elle se fait avec le pu d'une maladie de la vache. Vache, c'est vacca en latin, vacca, vaccine, vaccination. Et la vache a une maladie avec des boutons. Si on prend le pu de cette vache et qu'on l'inocule à un être humain, on le protège contre la variole. Là encore, vous voyez bien comment à cette époque les connaissances sont extrêmement rudimentaires. On ne connaît pas les microbes, encore moins les virus, on ne les cultive pas, on ne les identifie pas. C'est donc des manipulations qui aboutissent à admettre que les vachères ou les fermiers qui manipulent les animaux malades, en fait, sont protégés contre la variole. Et tout ceci est entouré d'un profond mystère. Mais malgré ce mystère, génère, d'autres avant lui probablement, mais c'est Jenner qui est resté dans l'histoire, injustice probable, c'est Jenner, un médecin anglais qui travaillait à la campagne, qui observe ça, entend des rapports, des observations autour de lui, et va donc vacciner un jeune homme que vous voyez ici sur un tableau qui est de fantaisie, il n'y a pas de photo, donc c'est une reconstitution. Et il lui prend du pu de la main d'une laitière. Vous la voyez, la jeune vachère qui derrière, elle a un petit pansement sur le doigt. Donc c'est un tableau qui est minutieux, qui reconstitue bien les conditions. Et avec ce pu du doigt de la vachère infectée par la vaccine d'une vache, ça a été transmis à l'enfant qui sera protégé contre la variole, puisqu'on n'hésite pas à cette époque à faire des expériences, c'est-à-dire à mettre au contact les enfants vaccinés d'authentiques varioleux et de voir qu'ils ne contractent pas la maladie. Donc, acte 2 de l'histoire de la vaccination, l'histoire de Jenner et de la vaccine. On dit vaccination. Alors, un tableau romantique pour vous dire comment cette scène peut être agréablement représentée. On est loin du Paris. C'est un peu larmoyant, comme le veut l'époque romantique, le médecin de famille, la mère et l'enfant, tout baigne. Mais en même temps, là encore, les gouvernants, les États, prennent conscience de l'importance de la vaccination pour leur sujet. Les gouvernants s'enthousiasment pour le sujet, et parmi eux, Napoléon. Ce qui explique qu'alors on est au maximum des mauvais rapports avec les Anglais. Vous savez bien que Napoléon finira à Sainte-Hélène. Napoléon a admiré la découverte de Jenner, a facilité la venue du vaccin qui a forcé le blocus par un bateau qui est passé, je ne sais pas comment, par la Hollande et a atterri à La Rochelle. Parce que sinon, vous savez, il n'y avait plus de rapport entre Angleterre et France. Bref, Napoléon a protégé la variole, la vaccine, pardon, et l'a introduite en France. Et ça paraît assez incroyable, en 1812, il a posé le problème, il a posé le principe de la vaccination obligatoire. Le principe. En 1812, c'est la Russie, c'est l'invasion de la Russie, la grande armée. Il a pourtant bien d'autres soucis, comme vous savez. Et malgré tout, c'est en 1812 qu'il signe un décret rendant la vaccination contre la variole obligatoire. Évidemment, obligation qui ne sera pas respectée, et puis, bon, Napoléon, etc. Mais c'est un jalon important. Alors, de toute façon, Napoléon n'est pas le seul à adopter avec enthousiasme le vaccin jennérien. La plupart des souverains d'Europe et aussi d'Orient ont adopté avec enthousiasme la vaccination et l'ont plus ou moins rendue obligatoire. Là, je vous ai, il y a plusieurs exemples possibles, mais là, c'est les souverains d'Espagne, pour ne pas être trop franco-centrique, c'est les souverains d'Espagne qui accueillent la vaccination et qui patronnent des expéditions qui vont emporter un petit peu de substrat du principe vaccinal de la vache, mais transmis de bras à bras, c'est-à-dire qu'avec le pus de la vache, on va inoculer un premier enfant, et ensuite, d'enfant en enfant, on va conserver ça sur le bateau, et les bateaux partent, et vous avez donc un petit périple du vaccin à travers toute l'Amérique latine, avec chaque fois, et ça me laisse toujours un petit peu perplexe, des foules énormes qui viennent se faire vacciner dans des conditions dont on ne sait pas très bien s'il y a de la coercition ou de l'enthousiasme ou de la croyance, un mélange. Parce qu'à cette époque, malgré tout, ce qui domine, c'est donc le lien avec l'État. Michel Foucault était passionné par l'histoire de la vaccination. Je dois dire que ça m'avait fait chaud au cœur à l'époque. Je commençais mon histoire de l'immunologie et, contrairement à mon patron de thèse, Foucault m'avait manifesté un immense enthousiasme pour la question. Foucault, lié, je sais, à Poitiers, votre revue lui a consacré un très très bon numéro qui fait découvrir un Foucault inconnu, le Foucault avant la célébrité, le Foucault local. Mais Foucault se passionnait pour la vaccination, et il se passionnait pour la vaccination pour des raisons philosophiques évidentes à comprendre, c'est que pour lui, c'était une première manifestation d'un État, d'un gouvernement, qui s'attaquait à ce qu'il a appelé la gouvernementalité et la gouvernementalité des corps, c'est-à-dire que l'État impose une véritable empreinte sur le corps de ses sujets. Cette empreinte, elle est matérialisée par la cicatrice vaccinale. Il contrôle la circulation de l'infection, le phénomène de contagion. Il contrôle réellement le comportement des corps. Foucault était plutôt critique à l'égard de cette emprise gouvernementale qu'on a pu appeler dans d'autres contextes la médicalisation. Mais il s'était absolument passionné parce qu'il y voyait des tas d'enjeux sociaux et politiques que, à l'époque, personne ne voyait dans ce qui apparaissait comme une routine de dispensaire, de santé publique, de bonnes femmes et d'enfants. Alors, de là à penser que Foucault avait peut-être entendu... En plus, Foucault était d'une famille médicale. Ça, à l'époque, je n'avais pas exploré du tout. Mais je reconnais que j'étais très, très confortée. Et je me souviens avec tristesse qu'un jour de 83, je suis revenue de Berlin en me disant « Ah, je vais voir Foucault pour discuter avec lui de ma thèse sur l'histoire de l'immuno. » Et j'ai ouvert Libé. Et il était mort. Donc, mon histoire, c'est aussi une histoire qui s'arrête, puisque je n'ai pas pu pousser plus loin cette discussion. Mais je voulais le mentionner parce que c'est vrai que peu de gens s'intéressaient à l'époque à l'histoire de la vaccination, à tous ces enjeux philosophiques, sociaux, compliqués, qu'aujourd'hui, dont tout le monde reconnaît l'importance, et que lui, avec cette capacité qu'ont peu de professeurs d'université et de pédagogues de vous écouter et de porter votre réflexion un petit peu plus loin. C'est quelque chose d'assez rare et dont il avait, quand il le voulait, ce qui n'est pas toujours le cas, dont il avait le secret. Donc, ce qui frappait à l'époque Foucault, c'était aussi la contrainte. Contrainte contre laquelle il se rebellait. La vaccination, elle se déroule dans des lieux de contrainte. Ces lieux, c'est l'école, et c'est aussi, vous l'avez deviné, l'armée. Juste pour égayer le propos, c'est un militaire qui me l'a passé, donc je l'inclus juste pour détendre l'atmosphère. Mais on y voit bien atmosphère, la gauloiserie est le propre des histoires de l'armée, mais on voit bien aussi qu'il y a l'obligation derrière la blague. Alors, cette obligation, elle a été la contrainte en matière de vaccination antivariolique a été très tôt sanctionnée de peine. Alors, je vous avais dit que Napoléon, en 1812, avait rendu la vaccine obligatoire. En fait, ça n'a pas été appliqué. Et pour qu'il y ait une loi qui réellement, une loi sérieuse en France, il faut attendre 1902, donc quasiment un siècle. Par contre, dans d'autres pays, elle a été rendue obligatoire avec une certaine efficacité plus tôt. Par exemple, en Angleterre, au milieu du 19e siècle, et en Égypte, pays où j'ai passé 5 ans, que vous voyez peut-être comme un pays très, très périphérique dans l'histoire scientifique, eh bien, pas du tout. L'Égypte, Mohamed Ali, le pacha d'Égypte, a rendu la vaccination antivariolique obligatoire en 1832. Et avec, il avait la main lourde. Je veux dire que c'était une obligation qui n'était pas tout à fait théorique. Alors, qui dit contrainte, dit résistance. La contrainte de l'État, l'obligation sanctionnée, etc., a suscité évidemment des réactions. Alors, ça peut être la réaction de la bourgeoisie, un simple dédain, comme on le voit sur cette caricature, un simple dédain à l'égard d'une obligation qu'on peut s'arranger pour court-circuiter, un petit bakchiche ou quelque chose. Et puis, ça suscite la colère des pauvres, qui n'ont pas les mêmes moyens de s'évader de l'obligation. Et là, c'est un exemple assez connu, sur lequel il y a beaucoup de documents, mais il y a certainement d'autres événements analogues dans d'autres pays. C'est ce qu'on appelle la révolte de la vaccine à Rio de Janeiro en 1903, pour laquelle la Fondation Oswaldo Cruz a fait une magnifique exposition. Il y a la population a refusé la vaccination obligatoire en 1903. Elle a fait des barricades. Les gens se sont battus sur les barricades avec un mélange de pauvres, de peuple et de jeunes bourgeois proches du peuple et qui ont vu une occasion de se révolter contre le Parlement et le gouvernement d'alors. Une histoire très tragique qui s'est terminée après une semaine sanglante qui rappelle un peu la Commune en France et qui s'est d'autant plus terminée mal que les mutins ont été déportés dans un îlot qui est en face de Rio, pour ceux qui d'entre vous sont allés au Brésil. Il y a un îlot qui s'appelle l'îlot du Cobra, où on a déporté les gens qui sont morts, cette fois, de fièvre jaune. Donc, un épisode extrêmement important. Je pense d'ailleurs que cette révolte est quelque chose qui marque la révolte contre la vaccination obligatoire, est quelque chose qui a laissé des traces durables. Et qu'on peut interpréter, j'étais très frappée tout à fait récemment en lisant les mémoires de quelqu'un dont le nom vous dira peut-être pas grand-chose. C'est quelqu'un qui s'appelait Sayed El-Khoutb, qui est un égyptien, un islamiste égyptien, qui a écrit ses mémoires dans les années 50. Et il raconte comment, dans l'Égypte de cette époque, les enfants voyaient arriver le médecin scolaire comme une espèce de bourreau, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Et il raconte comment il se sauvait, il faisait l'école buissonnière ce jour-là. L'idée, c'était le refus de la violence de l'État. Et je me suis toujours demandé, parce que El-Khoutb n'a pas toujours été un islamiste, c'était d'abord un jeune romantique, soucieux d'une carrière littéraire, etc. Puis à un moment donné, il a été emprisonné par le régime égyptien, par Nasser, et il a été pendu. Il était impliqué dans un complot vaguement des frères musulmans, on ne sait pas très très bien. Et je me suis toujours demandé dans sa vie quel rôle avait joué cette révolte d'enfants contre le médecin qui venait imposer la vaccination. C'est là un sujet de méditation, de rêverie. Je ne peux rien prouver, mais je me suis toujours demandé comment cette histoire avait fait peut-être basculer le destin d'un enfant. D'où l'importance d'expliquer. On peut imaginer le médecin qui vient vacciner comme un espèce de bourreau implacable. On peut l'imaginer aussi comme un homme souriant, à l'écoute, qui explique, etc. C'est difficile, dans ce cas-là précis, de refaire l'histoire. La vaccination est donc la résistance à la vaccination, très tôt, a été résistance à la violence de l'État. La violence de l'État qui n'est pas violence seulement vaccinale, qui est violence par la conscription, par l'impôt, par le travail obligatoire. Ça peut être une résistance à l'État étranger, à la colonisation. C'est pour ça que je vous ai mis c'est pas une photographie, c'est un dessin que j'ai repéré dans un pèlerin de 1922. Après la guerre du Rif, les militaires français vaccinent. Et vous pouvez imaginer donc tous les enjeux qui sont tout autour de cette vaccination dans le contexte de ce qu'on appelle alors une pacification. Sautons maintenant à l'étape suivante, l'étape pastorienne. L'étape pastorienne est extrêmement importante. Elle est d'abord importante d'un point de vue tout simplement linguistique. C'est parce que ces pasteurs, et ça c'est un coup de génie, qui inventent le terme générique vaccin. C'est-à-dire qu'alors que jusqu'à présent, ça désignait uniquement la vaccination contre la variole, maintenant, ça veut dire un vaccin contre n'importe quel virus. Et à l'époque, Pasteur emploie le mot virus, pas au sens d'aujourd'hui, mais virus, microbe, poison, un terme très très vague. Et il lance fièrement en 1881 l'annonce enthousiaste, nous possédons maintenant des virus vaccins atténués propres à faire disparaître toutes les maladies. Voilà, l'horizon est décrit. Maintenant, on se situe dans l'univers de la vaccination et des vaccins. Il n'y a plus qu'à travailler, à se retrousser les manches. Ici, vous avez un tableau inventé. Vous avez la vaccination du petit Joseph Meister en 1885. Ce n'est pas un hasard, c'est un Alsacien. Il est venu en train avec sa mère de l'Allemagne, de l'Alsace occupée par l'Allemagne. Vous avez tous les symboles et la presse française, de l'extrême droite à l'extrême gauche, applaudit. On a des vaccins et le premier vacciné, c'est un Alsacien. Je ne vous donne pas de détails, vous avez tout compris. Ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque, et si ça vous amuse quand vous allez faire les puces, à côté des multiples objets, essayez de chercher des assiettes. Les assiettes, jusqu'en 1914, ont été une forme de presse populaire. Je me demande toujours qui achetait ces assiettes et qu'est-ce qu'on en faisait. Mais on trouve des assiettes qui racontent des événements. Et par exemple, on a cette assiette qui montre des gens qui attendent. C'est une assiette qui date à peu près de 1885. Sarreguemines, Gien, toutes les faïences, etc. Et vous avez des gens qui attendent devant la porte, non pas de l'Institut Pasteur, parce que c'est avant l'Institut Pasteur, donc c'est avant 1888, qui attendent devant le laboratoire de la rue d'Ulm, probablement. Et vous pouvez regarder, mais peut-être comment vous n'y voyez pas assez, vous voyez un arabe, clairement, avec un... je dirais pas un kéfié, puisqu'on dit pas une sorte de chéchia, etc. Je crois que vous avez un russe. Enfin, vous avez plusieurs éléments qui montrent à quel point, et c'était ça sur lequel je voulais insister, planète vaccinale, c'est des gens de tous les points du monde qui viennent se faire vacciner contre la rage. Vous avez d'autres assiettes qui se réfèrent à l'épopée pastorienne, et qui prouve à quel point c'est plus intéressant que les livres. Il y a également, vous trouvez au puce, des quantités de livres de vulgarisation qui répètent plus ou moins la même histoire. Mais je pense que le témoignage le plus passionnant, c'est ces assiettes, qui sont à la fois des éléments d'information et de propagande. Par quelle voie ces motifs ont-ils été choisis par les faïenceries? Je ne sais pas. Là, c'est vraiment un sujet... Ce qui est important, c'est que Pasteur... Et là, ce n'est pas tellement du scientifique que je parle, c'est plutôt de l'homme de génie, le médiatique avant la lettre et l'apôtre de la médiatisation, va immédiatement voir dans la vaccination la possibilité d'une éradication des maladies. Alors là, vous avez la statue de Pasteur qui est place de Fontenoy. Quand vous tournez autour des bas-reliefs du bas de la statue, la place de Fontenoy à côté de l'UNESCO, vous voyez bien qu'il y a la mort avec Sappho qui est en train d'être vaincue. Elle laisse tomber Sappho. Et c'est un motif qui sera reproduit par beaucoup de scientifiques. Ô mort, où est ta victoire ? Phrase célèbre. Les vaccins donnent l'espoir, il faut bien le dire, très prématuré, d'en finir avec la plupart des grandes maladies et des fléaux. Des fléaux, y compris, et Pasteur le dit explicitement, des fléaux comme la peste, là, une vision évidemment inventée, romantique, des désastres de la peste dans des vieux quartiers, et là, à droite, une photographie plus réaliste qui vous rappelle que, très souvent, la peste, c'est un bubon, un ganglion dans l'aine. Et qu'à l'époque, on n'a pas vraiment de vaccin contre la peste. Alors, un grand tournant a lieu donc à ce moment-là, avec progressivement la multiplication des vaccins. Le paradoxe d'ailleurs avec le vaccin contre la rage, c'est que ce n'était pas du tout un vaccin universel, puisque d'abord, ce n'était pas un vaccin qui prévenait la maladie, mais un vaccin qui était donné après morsure, donc plus un vaccin thérapeutique qu'un vaccin curatif. Et dans le grand succès de l'entreprise pasteurienne et la fondation de l'Institut Pasteur en 1888, on a un petit peu oublié ces nuances. En fait, l'entreprise vaccinale s'est développée dans toutes les directions. Il y a eu, à la fin du 19e, toutes sortes d'essais de vaccins, avec des vaccins qui sont complètement oubliés aujourd'hui, anti-streptococciques, contre la fièvre des accouchés, un premier vaccin contre le choléra qui n'a pas marché, enfin, toutes sortes de vaccins, mais un dynamisme incroyable, même s'il n'a pas toujours donné des vaccins vraiment importants. Ce qui est important, c'est que, en fait, les principes de la nouvelle médecine étaient posés, à savoir celle de faire des vaccins, d'essayer de faire des vaccins contre toutes les maladies, et en particulier contre la poliomyélite. Alors, la poliomyélite est extrêmement importante parce que c'est une maladie pour laquelle on a tenté pour la première fois des campagnes de masse. À une échelle absolument inconnue auparavant. Le vaccin contre la poliomyélite, qui était en potentiellement un vaccin universel, a été lancé aux États-Unis en 1954 et on a vacciné des millions d'enfants. Ensuite, avec le vaccin Saul, qui était un vaccin injectable. J'aurais dû, pour être équitable, mettre la photographie de Saul, puis au dernier moment, je ne l'ai pas trouvée. Je n'ai donc mis qu'une image pour évoquer ce qu'était la réalité de la polio, parce que là encore, on l'a un peu oublié dans nos pays, à savoir une maladie qui pouvait attaquer les muscles, mais de façon générale, enfin les neurones moteurs. Et là, il y a une photo pour rappeler ce que c'est qu'un poumon d'acier. Plutôt que vous montrer la photo classique où on voit des enfants dans leur poumon d'acier, une vingtaine d'enfants dans une salle, je vous montre le prototype qui avait été créé pour un milliardaire, pour un fils de milliardaire, un des premiers poumons d'acier avec lequel le jeune homme a pu voyager et même visiter Paris. C'est comme ça qu'on a cette photo, quand il a visité Paris. Il pouvait être sorti de son poumon, je ne sais plus si c'était un quart d'heure ou une demi-heure par jour. C'est vrai que pour comprendre ce que sont les maladies, c'est comme l'image de la variole, il faut aussi se rappeler ce qu'était le cauchemar des parents, une atteinte des muscles respiratoires, une asphyxie progressive et aussi une paralysie des jambes. Alors, la polio, la campagne de la vaccination contre la poliomyélite a été donc un énorme événement. Elle a couvert plusieurs millions de personnes et vous avez ici une courbe qui montre comment les vagues d'épidémie, c'était une épidémie de l'été, donc qui en général s'accompagnait les piscines, le partage des germes dans les piscines. Et dans mon enfance, quand il y avait le bruit d'une épidémie de polio, on fermait les piscines, ça je m'en souviens encore. Il faut dire que c'est vrai que parfois on a envie de citer des événements personnels. Je me souviens très très bien de la vaccination contre la polio, parce que j'étais très petite, mais il y avait eu un drame dans la ville. Une enfant qui fréquentait le service des polios avait été atteinte par la maladie et avec, elle a gardé une boîterie, une jambe atrophiée. Et donc, à la suite de ça, quand le vaccin est arrivé, nos parents nous y ont envoyé. C'est très étrange de se rappeler ça, parce que maintenant, avec toutes les discussions, les cas de conscience des jeunes mères, est-ce que je le fais vacciner, pas vacciner, etc. Je me souviens, à l'époque, tout le monde, massivement, est allé se faire vacciner. Moi, comme les autres, j'ai attendu, résigné, sans trop me poser de questions, et sans imaginer qu'un jour, je parlerai de l'histoire de la vaccination. Alors... Pardon.
C'était pas le vaccin TABDT tuberculose.
Ah non. À l'époque, c'était pas du tout. Oh là là, c'est bien postérieur. Non. À l'époque, c'était un vaccin. C'était le vaccin de Salk qui avait été plus ou moins adapté par l'épine. Et c'était un vaccin unique. Il n'y avait pas de vaccin conjugué. Il n'y avait pas de vaccin couvrant plusieurs. Ça, c'est bien postérieur. Alors bon. L'éradication, ça a été évoqué, bien sûr, dans les discours inauguraux. C'est une histoire que vous connaissez bien. L'éradication de la variole a eu lieu notamment en Inde, qui a été, en gros, le dernier bastion, en raison de la surpopulation qui rend extrêmement difficile de maîtriser une épidémie en Inde. C'est un continent extrêmement surpeuplé. Si vous y avez voyagé, vous en avez certainement eu l'appréhension, je dirais presque tactile et visuelle, enfin la foule en Inde est quelque chose. Donc c'est l'Inde qui a été un des derniers pays, et l'éradication de la variole en 79 avec le dernier cas en Somalie. Alors le BCG, nous avons vu jusqu'alors des vaccins qui étaient par définition des vaccins appelés à une diffusion mondiale, qu'il s'agisse de la variole bien sûr, mais aussi de la polio, c'était des vaccins qui avaient une vocation universelle. Le BCG, cher à l'un d'entre nous, et à nous tous d'une certaine façon, le BCG était aussi promis à une histoire universelle. En fait, cette histoire universelle ne l'a pas été assez rapidement. Le BCG était un vaccin français dans un monde où il ne faut pas ignorer les antagonismes nationaux et les nationalismes. Le BCG était un vaccin français élaboré au terme d'une recherche de plus de 20 années par Calmette et Guérin et a été expérimenté pour la première fois en 1921 sur un enfant né de famille tuberculeuse. Il a été diffusé très rapidement en France et dans une partie du monde, mais il a connu un accident qui reste un accident important, même si maintenant votre génération ne connaît plus ce nom. C'était probablement le nom le plus connu en lien avec les accidents de la vaccination. C'est le procès de Lübeck. Lübeck, en 1929, c'est le Sénat de Lübeck qui avait fait venir du vaccin de l'Institut Pasteur de Paris pour le diffuser dans l'état autour de Lübeck. Et il y a eu une contamination d'origine restée relativement mystérieuse avec une centaine d'enfants qui sont morts d'une tuberculose intestinale. Le vaccin avait été pris par la bouche. À l'époque, le BCG était donné par la bouche. Il s'est ensuivi un procès dont on dit qu'il a fait mourir Calmette de chagrin, qui a été un procès entre 1929 et 1931 sur les risques du BCG. Ce procès a été un procès éminemment politique. Calmette n'y figurait pas, mais c'était un procès fait par l'Allemagne à la France dans un contexte que vous devinez. Et doublement politique, non seulement à cause de la tension entre la France et l'Allemagne, mais aussi parce qu'une partie des membres du laboratoire de Lübeck était juif. Donc ça s'est compliqué d'ailleurs d'un affrontement entre juifs eux-mêmes, entre des médecins soutenant la cause des pauvres, parce qu'il faut dire, et ça c'est une chose que je n'ai découvert que relativement récemment, c'est qu'au départ, les bourgeois n'étaient pas très chauds pour faire vacciner leurs enfants, et pour enclencher le mouvement, on a proposé une petite somme pour faire vacciner les enfants à l'hôpital. Autrement dit, les morts étaient des pauvres. Donc là aussi, ce qui fait que parmi les opposants de la vaccination, vous avez aussi un député juif qui siégeait au Parlement à gauche et qui est venu dire « mais vous avez tué des pauvres qui vous ont servi de cobaye ». Donc c'est une histoire extraordinairement compliquée. Si vous ajoutez à ça le grondement des premières sections SA d'Hitler et le fait que vous ne le savez peut-être pas, Hitler était farouchement opposé à la vaccination, vous avez tous les ingrédients pour faire de ce procès à multiples facettes qui est un épisode fascinant et qui est, je crois, le premier grand procès médical dans le monde. Mais de ce procès, d'une certaine façon, le BCG ne s'est pas sorti indemne. Certes, l'hypothèse la plus probable a été que, tout simplement, on avait contaminé, on avait stocké le vaccin dans le laboratoire, à côté, donc sans précaution, les précautions qu'aujourd'hui on emploierait, sans protéger, sans faire une compartimentation entre le bacille de la tuberculose et le BCG, qui est un bacille tuberculeux atténué. Il y a donc eu une contamination probable. Probable, mais non certaine, puisque les cultures du laboratoire ont été détruites dès le début du procès. Donc on ne saura jamais le fin mot. Mais c'est l'hypothèse la plus probable. Ceci dit, une question avait été posée, une question scientifique à laquelle la science du moment ne pouvait pas répondre. Est-ce qu'il est possible que le bacille du BCG, qui est un bacille bovin atténué, donc vivant, puisse, en étant transporté d'un individu à un autre, retrouver par combinaison, par je ne sais quoi, je ne sais quel mécanisme, une certaine virulence? C'était une question que la génétique de l'époque ne pouvait pas répondre. La génétique était balbutiante. Et une question qui se repose, non pas tant à cause du BCG, mais avec le vaccin polio. Avec le vaccin polio vivant atténué, qui est pris par la bouche, il transite par l'intestin. Et dans l'intestin, on admet qu'il est possible qu'il rencontre des virus de la même famille avec lesquels il échange du matériel génétique, entraînant des phénomènes de recomposition qui redonnent un virus qui peut avoir une virulence différente de celle qui était celle du virus initial. On pourra en reparler si vous voulez. C'est là des choses qui sont à la limite de l'épidémiologie et de la science génétique, mais des éventualités dont la nature est prolifique. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles dans la nature, pas forcément que des événements désagréables, mais c'était quelque chose qui explique toute l'incertitude scientifique qui a entouré ce fameux procès de Lübeck. En tout cas, ce procès dont on dit qu'il a fait mourir Calmette de chagrin est un procès dont le BCG ne s'est pas sorti indemne dans certains pays. Par exemple, aux États-Unis, le BCG n'a jamais été obligatoire. Avec des arguments qui ne sont pas sans intérêt, outre la défiance vis-à-vis d'un produit français, etc., il y avait aussi un argument d'une certaine façon plus sérieux et qu'il faut reconsidérer au vu de la situation actuelle, c'est le fait que si on vaccine, ça peut être parfois, pour les gouvernements, pour les organisations, un moyen de se protéger, de trouver une mesure simple qui permet de ne pas se préoccuper d'autres problèmes. En termes clairs, c'est plus facile pour un gouvernement d'obliger les gens à se faire vacciner que de donner aux gens du travail, des logements, de l'air, de bonnes conditions de vie et de travail. Et un argument qui n'est pas complètement dénué de raison est l'argument de certains activistes américains qui ont dit « Nous, on veut une politique sociale, mais on ne veut pas de vaccin. » C'est un élément de la discussion. Alors, ces campagnes de vaccination, la polio, par exemple, a gardé donc cette configuration universelle. Là, je vous ai mis, pour montrer l'universalité des campagnes vaccinales, deux images caractéristiques. Au Nigeria, donc vaccin polio par la bouche, et au Yémen, ça c'est une photo tout à fait récente que j'ai eue en novembre dernier. Cette stratégie... Parce qu'une stratégie a été mise en place. Alors, nous arrivons dans les années 78, Nous disposons donc d'un certain nombre de vaccins contre les virus. Au premier plan, la vaccination contre la polio. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au moment où l'éradication de la variole est prononcée, c'est-à-dire en 1979, les dates varient parce que ça dépend de ce qu'on prend comme point de chute. Mais enfin, en gros, c'est en 78-79 qu'on a considéré que la vaccination contre la variole avait atteint son but, l'éradication globale, et que la vaccination, dès lors, devenait d'abord facultative. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont nés après 79, elle était facultative. La plupart du temps, les parents l'ont assez volontiers abandonnée. Et donc, à partir des années 80, la génération actuelle n'est plus vaccinée contre la variole. En revanche, se déployaient toutes sortes de vaccins à vocation universelle, au premier lieu la polio, avec l'adoption d'une stratégie qui a été le programme étendu de vaccination, PEV en abrégé, qui associait un certain nombre de vaccins et qui a été proposé pour réduire ce qui apparaissait frappant, à savoir l'inégalité de morbidité et de mortalité entre les parties du monde. À Alma-Ata, en 79, je crois, en Mongolie, l'Union soviétique a donné son champ du cygne en proposant la vaccination comme un des outils de ce qu'elle a appelé la santé pour tous, c'est-à-dire un outil bon marché, puisqu'à l'époque, c'était des vieux vaccins qui n'avaient plus de brevets et qui, par conséquent, n'étaient pas chers. C'était facile à faire, ça pouvait se faire en campagne de masse. C'était donc adapté à des situations avec des grandes populations, dans des centres ruraux. Ça pouvait être fait par des non-médecins, pas par des infirmiers, mais par des aides techniques formées très rapidement en 15 jours. Et c'était donc un outil qui apparaissait parfaitement adapté à la situation du tiers-monde pour rattraper cet écart complètement scandaleux et choquant par rapport aux parties les plus privilégiées du monde. Ça, c'est donc l'histoire d'un programme qui s'est appelé le PEV et dans lequel l'UNICEF en particulier, donc l'Union, vous savez, pour les enfants du monde, a joué un très très grand rôle. Alors il s'agissait évidemment d'un nouveau pari, celui d'éliminer certaines maladies par une politique de campagne de vaccination, avec notamment des jours de vaccination mondiale, des jours dans la plupart des pays d'Afrique encore aujourd'hui, il y a une fois ou deux fois par an, un jour de vaccination, qui fait l'objet, et ça commence justement à soulever un certain nombre de problèmes, c'est un programme vertical, c'est-à-dire des équipes qui viennent ce jour-là, rassemblent la population, vaccinent tout le monde, avec un budget séparé qui est distinct du budget du ministère de la Santé, qui a en général d'assez gros moyens, mais qui n'est pas nécessairement intégré à une politique harmonieuse, avec des équipes qui sont mieux payées que les autres, etc., qui soulèvent un certain nombre de problèmes. De toute façon, le PEV, enfin la politique, le programme étendu de vaccination, a constitué un outil et un idéal collectif. Aujourd'hui, alors, ici, vous avez donc de nouveaux vaccins, avec le vaccin contre la méningite. Alors, l'obligation. J'en arrive à la période contemporaine. Je vois le temps passer et je voudrais rester avec vous un petit peu sur la période contemporaine et la modification de la situation. Le pari vaccinal s'est complètement modifié. Il s'est modifié avec un grand nombre d'éléments qui lui donnent sens. D'abord, le BCG. En France, du moins, il n'y a jamais eu de doute. Le BCG était obligatoire et idéalement représentait une véritable prophylaxie universelle de la variole. En fait, depuis une bonne dizaine d'années, il y a énormément de discussions autour de l'obligation du BCG, avec des arguments qui sont à la fois, et c'est ça le problème de la vaccination, la difficulté de ma conférence de ce soir, c'est des arguments qui sont à la fois scientifiques et socioculturels. Et c'est très difficile parfois de faire la part des deux. D'abord, scientifique. Le BCG n'est pas une protection absolue. Remarquons bien d'ailleurs que la plupart des vaccins ne sont pas des protections absolues. Absolue, ça veut dire 100%. Pour des tas de raisons dans le détail duquel je n'entrerai pas, il n'y a pas de vaccin à 100%. 99,9%, ce n'est pas 100%. Bon. Le BCG, c'est beaucoup moins de 100%. C'est plus compliqué que cela. Le BCG protège très efficacement contre des formes graves de tuberculose chez l'enfant, comme la méningite, mais ne protège qu'imparfaitement contre la tuberculose pulmonaire de l'adulte. On peut avoir une tuberculose pulmonaire à l'âge adulte et avoir eu le BCG dans l'enfance. Ceci dit, il protège partiellement. La discussion, elle a pivoté aussi sur des éléments culturels. J'ai assisté à cette discussion, j'ai vu venir les choses. À partir de 1990, il y a eu, surtout après 1994-1995, l'hépatite, etc., les gouvernements étaient de plus en plus réticents à s'engager dans l'obligation. D'abord, l'obligation, c'est une obligation qui a un coût financier considérable, puisque la vaccination est gratuite. Étant obligatoire, elle est gratuite. Le deuxième élément, c'est qu'il y a le moindre problème, l'État est solvable, l'État doit compenser l'accident. Or, les vaccins ont toujours eu des incidents et des accidents. Mineurs, majeurs, rares, etc. Ils ont bien été recensés dans les années 50 par l'ancien directeur des services d'hygiène d'Angleterre dans un livre excellent qui s'appelle « Les aléas de l'immunisation » « The Hazards of Immunization » qui n'a pas été traduit. Il n'y a pas l'équivalent en français. Bon, aujourd'hui encore, il y a tout un système qui a été mis en place progressivement pour enregistrer tous les incidents mineurs, fièvre, petits boutons, douleurs, etc., fatigue, et puis les accidents qui peuvent survenir. Il y a un système d'enregistrement extrêmement sophistiqué, en particulier aux États-Unis, mais aussi en France, pour suivre ce qui se passe. Parce que quand on prend un vaccin qui a été expérimenté sur un nombre, malgré tout, limité de cas, et qu'on le lance dans la population générale, vous n'avez pas besoin d'avoir fait de longues études pour deviner que si vous lancez un vaccin dans une population, cette population est formée d'individus très variés, de gens qui ont des problèmes d'immunité, de gens qui ont des affections diverses, des maladies génétiques, etc. Et donc, il y a un risque non négligeable qu'il se produise des événements fâcheux. Et ça, c'est assez difficile. Alors, l'obligation du BCG a commencé à être discutée à partir des années 90, fin des années 90, avec à l'époque une proposition qui m'avait paru insoutenable, à savoir que le risque de contracter une tuberculose pour un citoyen français est multiplié statistiquement par je ne sais pas combien, s'il est immigré, s'il est sans papier, s'il est, etc. D'où l'idée qui avait été proposée, je m'en souviens très bien, en 2002, dans les écoles, de faire un tri entre les enfants pour qui ça ne serait pas obligatoire et les enfants qui auraient un parent étranger. Vous imaginez, je pense que vous êtes tous, la plupart de vous, vous êtes parents, vous imaginez le médecin scolaire qui arrive et qui dit « Par ici les enfants qui ont un gène et par ici bon. » Bon, assez insoutenable, pas pour des raisons scientifiques, pour des raisons socioculturelles, des raisons de solidarité, etc. etc. Donc ça a été remisé. Et la solution politique qui a été choisie en 2006, c'est d'abandonner l'obligation pour tout le monde et de passer au registre qui est le registre actuel, qui est celui de la recommandation. Alors, je fais partie du Haut Comité de Santé publique. Donc maintenant, nous recommandons, nous n'obligeons presque rien. L'obligation en France, elle a survécu pour la polio, la diphtérie, le tétanos. C'est tout. La coqueluche n'est pas obligatoire, mais fortement recommandée. La rougeole est fortement recommandée. Alors le problème de la recommandation, c'est qu'est-ce que ça veut dire recommander ? Recommander, ça veut dire que c'est facultatif. Mais un facultatif recommandé. Alors c'est là qu'il y a toutes sortes de nuances. Et le Haut Comité passe son temps, et je vous engage à lire le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui est sur Internet, où vous aurez tous les détails. C'est un peu ennuyeux, mais si vous vous accrochez et si vous regardez le vaccin qui vous intéresse, vous saurez tout, non seulement sur l'état actuel des recommandations pour les vaccins, mais l'évolution de la situation. Car la situation évolue, et c'est ça qui rend les choses très compliquées. C'est-à-dire qu'actuellement, d'abord, le nombre des vaccins s'est multiplié. il y a des vaccins pour de très nombreuses maladies pour lesquelles il n'existait pas avant. Il y a un vaccin contre la varicelle, il y a bien sûr un vaccin contre la grippe que vous connaissez, il y a des vaccins contre la méningite, et au passage, je signale que ce n'est pas une obligation nationale, mais que les pèlerins nombreux qui vont à la Mecque sont obligés d'être vaccinés, et à leurs frais, ce qui pose, parce qu'on n'est pas obligé d'aller à la Mecque. Mais vous pouvez imaginer la discussion, puisque bon, vous allez à la Mecque, vous êtes obligé d'être vacciné. Et ça fait, je crois, je ne sais pas, 30 à 40 euros. Ce n'est pas une somme complètement négligeable. Enfin, bon. Donc vous voyez, les discussions qui peuvent naître à partir de ça. C'est une obligation, mais dont l'État n'assume pas les frais. Donc, toutes sortes de problèmes naissent à partir de là. Les vaccins se sont multipliés, parce qu'ils se sont multipliés contre de très, très nombreuses maladies, mais ils se sont multipliés au sens qu'il n'y a pas, pour une maladie, il n'y a pas un vaccin, il y en a plusieurs. C'est-à-dire que le Haut Comité fait des avis pour dire, entre deux vaccins, alors c'est là que ça devient très compliqué, qu'il y a tout le problème des conflits d'intérêts possibles. Il y a, par exemple, pour les infections à papillomavirus, le papillomavirus, c'est un virus qui donne des lésions génitales, qui peut être assimilé à une maladie sexuellement transmissible et qui est impliqué dans le cancer du col de l'utérus chez la femme. Donc il y a un vaccin maintenant qui est proposé aux filles à la puberté. Mais il n'y a pas un vaccin, il y en a déjà deux qui sont un peu différents. Donc l'avis du Haut Comité explique que le premier vaccin est un peu mieux pour certaines choses et le deuxième un peu mieux pour d'autres choses. Alors, vous voyez la perplexité du consommateur. C'est-à-dire que, et ça pose beaucoup de problèmes, il y a un décalage maintenant entre le médecin et le patient et le citoyen lambda, mais il y a aussi un décalage entre le médecin généraliste qui a toute la pathologie du monde dans sa salle d'attente et l'expert du Haut Comité qui, lui, ne s'occupe que des vaccins et lit toute la littérature sur le sujet. Vous voyez bien comment il y a... Et au même moment... D'où l'intérêt de notre rencontre. Au même moment, on demande aux citoyens de faire ses choix. C'est une revendication du citoyen lui-même. Le citoyen d'aujourd'hui ne veut plus d'obligation. Il veut se déterminer, il veut choisir. Donc pour choisir, il faut qu'il ait les informations. Mais cette information qui est disponible, il faut la chercher, il faut l'assimiler, il faut avoir le temps. Et il faut aussi trouver les bons canaux. Et ça vous met dans des situations, je pense, assez difficiles à résoudre. Ce qui fait qu'actuellement, un peu par paresse, un peu par esprit libertaire, un peu par tout ce que vous voudrez, beaucoup de gens laissent tomber. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de lassitude. Et elle explique que, par exemple, pour des maladies pour lesquelles le vaccin avait quand même été un vaccin rodé, ancien, etc., comme la rougeole, ça a été dit tout à l'heure, il y a effectivement des épidémies de rougeole, parce que se conjuguent deux effets. D'une part, le fait qu'il y a la jeune génération n'est plus vaccinée ou n'a plus fait la rougeole comme la mienne, donc arrive à 20 ans sans être immunisée, naturellement, artificiellement. Donc il y a des rougeoles chez les jeunes adultes qui sont graves, beaucoup plus fréquemment que chez les enfants. Il y a aussi les échanges de populations. Il y a des populations qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas vaccinées, etc. Enfin, pour tous ces arguments... Pour toutes ces raisons, on voit donc des épidémies de rougeole. Donc vous voyez le problème qui se pose, l'abandon de l'obligation, le remplacement par une politique de persuasion, de pédagogie, qui suppose une information bien faite. Alors, je me suis donné des facilités. Je n'ai pas trop introduit la discussion sur la grippe et le vaccin contre la grippe. D'abord, on rentre dans la période hivernale. Vous recevez certainement des courriers vous conseillant... Ce que je peux dire simplement, c'est vous résumer en deux mots la position actuelle du Haut Comité, c'est que ça n'est pas obligatoire, mais il y a des recommandations, ce sont des recommandations qui sont feuilletées, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux. Alors, au sommet de la hiérarchie, il y a les professionnels de santé qui doivent, ce n'est pas une obligation, mais sont fortement, fortement incités à se faire vacciner, les instituteurs, ceux qui travaillent dans les collectivités avec les enfants, etc. Ensuite, il y a les vieux, etc. Bon, ça, c'est classique. Donc, alors, ce qui est très important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, la vaccination n'est donc plus quelque chose qui rassemble les citoyens, mais d'une certaine façon, qui les divise. Parce que la vaccination est proposée préférentiellement à certaines catégories de la population. Et ça brise quelque chose qui était important, qui était cette fameuse solidarité vaccinale. J'étais amusée, intéressée d'entendre dans les discours, vous ne vous vaccinez pour vous, mais aussi pour les autres. Mais actuellement, nous assistons à une émergence des individus qui veulent être autonomes, qui veulent être maîtres d'eux comme de l'univers, et qui, pour lequel le motif altruiste n'est plus très important. Il s'exprime d'ailleurs parfaitement dans une boutade. Dans la vaccination, la chose la meilleure, c'est que tout le monde soit vacciné, sauf moi. Comme ça, j'ai la protection et je n'ai pas les incidents. Mais vous voyez bien que c'est... Alors, un dernier mot, parce que je vois le temps qui tourne, c'est que cette solidarité... Alors, bon, l'information, c'est quoi ? Là, c'est plus de la propagande que de l'information. Je vous avais mis Monseigneur Tutu en Afrique du Sud et Obama, quand même, beau gosse, qui se fait vacciner. Je suis sûre que vous êtes sensible.
Vous avez résisté à Bachelot. Bachelot se faisant vacciner devant la télé sur la grippe H1N1.
Oui, je voulais pas. J'ai préféré Obama. J'ai évité le... Mais il faut se dire que le vaccin est une chose fragile. Fragile dans l'opinion. Là, je vous ai mis, ça, c'est un document perso que j'aime bien. C'est la Chamalière où habite ma famille. En 90, il y avait sur une cabine téléphonique, il y avait ce refus parce qu'il circulait des rumeurs à propos du vaccin, qui, c'était vrai d'ailleurs, était fabriqué à l'époque avec des particules dans le sang des malades. C'est plus vrai maintenant. C'est un vaccin recombinant qui est fait artificiellement en laboratoire. Mais au début, il était fabriqué avec les particules virales des sérums de malades, d'où toutes sortes de rumeurs qui circulaient. Et j'ai donc photographié ça sur une cabine téléphonique de Chamalières. Comment persuader aujourd'hui le public d'une menace qu'ils ne ressentent plus? La variole, ça n'existe plus. Les gens n'ont pas vu de polio dans leur classe, etc. C'est très difficile. Faut-il fabriquer des images choquantes comme celle-là? Ça, c'est un malade qui meurt en Égypte et qu'on a passé à la télé. C'est un vrai malade. Je ne suis pas sûre qu'on lui ait demandé l'autorisation. De toute façon, il est certainement mort. Une des choses aussi, et ça, ça m'était inspiré tout à l'heure par l'exposition, c'est que la question des vaccins est devenue scientifiquement extrêmement compliquée. Ici, vous avez une idée du système immunitaire vu par un médecin anglais vers 1900. C'est une forteresse, hein, vous voyez, le cœur, etc. On voit bien la métaphore militaire. Tout à l'heure, dans l'exposition, vous avez eu une petite idée de la complexité des choses. Le brillant présentateur n'a pas développé. Chaque vaccin sollicite une voie différente dans cette forteresse et qui peut avoir, parce qu'il ricoche sur toutes sortes de cellules et sur toutes sortes de sites, peut avoir des conséquences très difficiles à appréhender. Donc voilà, chaque vaccin demande en fait une étude approfondie et je conclurai alors. Dans la planète, vaccin sur la planète, il y a eu des rumeurs de vaccins stérilisants d'un complot de l'Occident contre les pays pauvres, qui les frapperait dans ce larme qu'ils ont contre l'Occident, à savoir, et les pays riches, à savoir leur fécondité. Donc la rumeur que les vaccins sont stérilisants est quelque chose qui s'est propagé, que moi j'ai constaté en Égypte, mais tout le monde l'a constaté, dans des pays aussi différents que les Philippines, le Yémen, le Nigeria, la Guinée ici, voyez, la seringue et la mitraillette. Ça, c'est une figure de carnaval, mais qui dit quelque chose de l'opinion publique. Alors, pourtant, la vaccination pourrait être vue aussi comme quelque chose qui est universel. Là, vous avez donc à Téhéran, vous voyez le portrait de Pasteur sous vaccination, etc. Et d'ailleurs, avec le mot vaccination utilisé. Alors, pour conclure... Vous voyez, où je veux en venir, c'est que la vaccination pose le problème de cette fracture dans la planète où maintenant chaque groupe s'isolerait et déciderait pour lui-même. Si on ajoute à cela le fait que les vaccins sont devenus extrêmement chers, il y a beaucoup de nouveaux vaccins, mais les vaccins sont devenus extrêmement coûteux, ce qui n'était pas le cas il y a 100 ans, et pose donc un problème. Quand un nouveau vaccin arrive sur le marché, il n'est pas accessible à la plupart des pays. Pour l'hépatite B, ça avait posé un grand problème quand il a eu des essais cliniques au Sénégal et que le vaccin, dans un premier temps, n'a pas été accessible au Sénégal, alors que le Sénégal est un pays où il y a beaucoup d'hépatite B. Donc actuellement, et c'est une des sources qui explique pourquoi il y a ces rumeurs de vaccins, en fait, maintenant, il y a des programmes d'aide internationale à certains pays pour leur proposer les vaccins. Par exemple, le vaccin contre le cancer du col. Et c'est financé par Gavi en particulier, qui est un programme international d'alliance contre les vaccins pour l'initiative vaccinale. Mais un programme qui ne résout pas tout. Vous donnez un vaccin à un gouvernement, il faut encore qu'il mette en place l'infrastructure vaccinale, qui paye les gens qui vont vacciner. Et surtout, c'est un choix. S'il met de l'argent dans ce domaine, il ne mettra pas d'argent ailleurs. Et on peut se demander parfois si c'est sain de donner de l'argent pour un programme vaccinal quand il y a tant d'autres priorités. Je n'ai pas bien classé mes diapos, mais je voulais vous montrer la méningite. Le paradoxe au Niger, c'est qu'alors qu'il y a 3000 morts chaque année minimum de méningite, alors qu'il y a 15 morts de grippe, il n'y avait plus de vaccin contre la méningite, alors que le vaccin contre la grippe arrivait de Genève. Je crois que j'en ai dit bien suffisamment pour vous donner à penser que la dimension planétaire est quelque chose d'important et que je voudrais surtout insister pour finir, en vous remerciant de votre patience, sur les changements brutaux et à venir qui sont survenus dans la planète vaccinale. Et je pense qu'en tant que citoyen, vous devez être vigilant à cet égard. Merci. Est-ce que quelqu'un pourrait me prêter un crayon, un stylo, et je le rendrai. Merci beaucoup. Oui.
Très justement, quand vous avez parlé de l'efficacité du vaccin, on ne peut pas avoir d'efficacité, comme vous avez dit, à 100%, peut-être pas à 50%, peut-être pas à 80%. Mais à ce moment, il faut parler, je pense, de ce qu'a dit Camille Guérin à propos du BCG. Il dit qu'il ne sera efficace que si il est le premier occupant. Je crois que s'il a tout le problème, il est là. Et là, il faut que le vaccin... On l'a à la maison, cette parole, si vous voulez, parce qu'elle a été filmée. Il a dit que le vaccin ne peut être efficace que si... Enfin, il parle du BCG.
Oui, oui.
Que si il est le premier occupant. Alors, au-delà, on ne peut pas donner de précision ni de pourcentage. Moi, je suis né dans un milieu tuberculeux au Sénégal en 1933.
Oui.
7 enfants sur 10 mouraient. J'étais vacciné aussitôt. Et dès le passage du BCG, il n'y avait plus de... Si vous voulez, à partir du moment où il était le premier occupant. Je viendrai sur Lübeck. En ce qui concerne Lübeck, les savants, parce qu'ils avaient des contacts entre eux, les savants ont reconnu, eux, qu'ils avaient commis une grave erreur. Donc, Lübeck, il faut passer dessus aussi.
Oui, mais ça a eu un impact.
On peut inventer n'importe quoi, on peut dire n'importe quoi.
Il ne marche pas.
Mais ça ne fait rien. Vous l'avez entendu.
Je vous ai entendu.
Merci, Sadoc. Attends.
Ça marche. 1, 2, 1, 2. Voilà. Alors moi, par contre, ce qui m'a intéressé, c'est le côté social. Le côté... Parce que quelque chose... Vous voyez, regardez cette photo. Un truc qui va vous amuser. Vous voyez, là, vous voyez donc une population qui se fait donc vacciner. Et puis, vous voyez qui parraine, l'UNICEF. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis, moi, à travers de ma petite expérience et de ce que j'ai pu apprendre à travers l'histoire du BCG, je me suis aperçu, et vous l'avez tout à fait démontré au travers de votre conférence, là, il y a la partie médicale et il y a la partie sociale. Et puis, il y a la partie politique qui on veut dire, l'union de l'un et l'autre. Je veux venir à l'UNICEF. L'UNICEF, c'est justement, ça a été créé, vous savez par qui, et justement, les premières campagnes de vaccination, ça a été justement généré par l'UNICEF. Et je me suis aperçu que c'est vrai que c'est pas facile de... Nous, on a tendance à imaginer que la vaccination, ça a été fait au début pour on ne voyait pas le côté, on va dire, social. On pense qu'on est un peu égoïste quelque part. On se dit, c'est pour notre bien-être, c'est pour notre bien-être.
Mais le côté altruiste a été vu très tôt. Hein.
Et moi, je me suis après intéressé, c'est sur justement après. Et là, vous m'avez même éclairé sur cette partie-là, sur la partie sociale, puisque aussi bien la peste, la tuberculose, attaquer les pauvres. Et là encore, aujourd'hui, quand on préconise, quand vous dites maintenant, on fait des recommandations, il faut choisir ses mots. On va pas dire, on va dire, voyez, par exemple, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur va pas mettre en avant, écoutez, si vous venez dans notre région, il faut faut se vacciner au BCG, vous voyez. Ça, on n'en parle pas, vous voyez, parce qu'on a peur de toucher, comme si c'était un drame, de se faire vacciner. Vous voyez le côté...
Mais ça, c'est un changement.
Oui.
Ça, c'est un changement. Y a tout un débat actuellement en France, par exemple, à l'hôpital. Est-ce qu'il faut créer des consultations de précarité où n'iront pas les riches? C'est-à-dire qu'il y aura... Et d'ailleurs, c'est un vrai problème sur lequel je ne pense pas qu'il y ait de solution idéale. L'hôpital, à une époque, a été conçu comme l'école, comme un lieu où les classes sociales s'assieraient les unes à côté des autres dans la salle d'attente. Actuellement, on pense que pour des raisons d'efficacité, de spécificité, parce que ce n'est pas les mêmes problèmes, etc., il faut créer des consultations dites de précarité qui prennent en compte, par exemple, simultanément les problèmes sociaux, les problèmes économiques et les problèmes médicaux. Les deux peuvent se défendre, mais du même coup, vous créez, les classes sociales ne se rencontreront plus. Ouais. Et donc, là, je n'ai pas de solution. Hein. Je dis que c'est un problème actuellement... en grand débat, d'autant plus que les consultations de précarité qui finalement ont été créées offrent quand même des solutions pratiques et pourraient aussi, dans un but d'économie, être supprimées. Enfin, donc, vous voyez comment les problèmes sont extrêmement complexes. En se rappelant quand même que l'école comme l'hôpital, c'est un lieu symbolique et qu'il y a le problème de l'efficacité, mais il y a aussi le problème du symbole de la communauté citoyenne. Voilà, les données du problème.
Oui, je voulais poser une question. C'était par rapport au... Vous avez parlé du cancer du col de l'utérus, là où on voit les pus pour les enfants en puberté. Oui. Les adolescentes. Moi, j'ai deux collègues, une fois, on est dans le même bureau, je les ai surprises en train de parler. Est-ce que tu l'as fait? Tu le fais pour ta fille ou pas? Regardez sur Internet, cherchez. C'était au moment où la pub passait à la télé. Oui. Et là, quand vous avez dit qu'il y avait deux vaccins, il y en a un qui est bon pour ça et bon pour l'autre, moi, je me dis, comme vous avez dit aussi que l'État ne veut plus recommander, est-ce que le rôle de l'État... ne veut plus obliger. Voilà,
Par exemple, le comité n'a pas dit prenez le premier et pas le deuxième.
Voilà.
Parce qu'on aurait des ennuis avec les firmes
pharmaceutiques. Voilà, c'est exactement là où je voulais en venir. Est-ce que l'État... Puisqu'il s'est un peu retiré de sa fonction d'obliger les gens à se vacciner, ne peut pas, du coup, obliger les entreprises pharmaceutiques à affiner leurs recherches et à proposer un produit efficace avant d'autoriser la mise sur le marché.
Alors, vous avez tout à fait raison.
Au lieu d'autoriser une multitude de petits vaccins comme ça, chacun fait sa petite...
Vous avez absolument raison, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Dans l'exemple que vous avez cité, le Haut Comité a fait une recommandation, mais on peut se demander si ces recommandations ne sont pas des vœux pieux. Parce qu'à partir du moment où vous faites une recommandation, ça veut dire que vous n'avez guère ni de carottes ni de bâtons. Et c'est ça le problème. Parce que donc la recommandation porte sur le fait que l'industrie pharmaceutique est encouragée, c'est ça ce qui est dit dans l'avis, à faire le maximum d'expérimentations pour prouver avec précision les effets, l'efficacité, mais aussi les effets indésirables, etc., qu'elle est priée de ne pas faire de publicité mensongère et de mettre dans la publicité de façon précise quels sont les ingrédients du vaccin, quel est l'adjuvant, c'est-à-dire la substance qui est supposée faciliter la réponse immunitaire, mais aussi un excipient, le produit de base dans lequel se trouve le vaccin, etc., etc. C'est-à-dire une publicité qui soit informative et non pas de la propagande. dans quelle mesure l'État peut réellement obliger, si vous voulez, une information et une conduite de cette qualité quand, d'autre part, il a ménagé une entreprise qui emploie un certain nombre de gens, qui apporte, etc. Bon, nous sommes dans les problèmes de société dans lesquels nous nageons tous en ce moment.
Je vous remercie d'avoir un discours très clair parce que pour contrecarrer tout ce que je vais dire après, je suis un fervent promoteur de la vaccination et les organismes...
Partisans.
Promoteur maintenant. Oui, c'est vrai que ça porte ça veut dire encore autre chose, je suis désolé. Et les organismes que je représente ici aussi, donc c'est en mon nom personnel. Voilà. Alors, par contre, en mon nom personnel maintenant, je vous remercie d'avoir été très clair dans votre discours en parlant notamment de recommandations. La recommandation, moi, je la prends dans un autre sens. C'est-à-dire que l'État, au contraire, ne veut pas retirer le produit du marché. Alors vous avez bien parlé de protéger les sociétés pharmaceutiques dans ce cas-là. Bien sûr que l'État ne veut pas. Mais là où ça pose un vrai questionnement, dans une certaine couche de la population, c'est que pas forcément l'État non plus. Le haut comité, etc., il est constitué de personnes. Alors je ne dis pas toutes, attention, je ne suis pas là en train de rebaptiser tout le monde de la même manière. Mais certains, parce qu'on en a de plus en plus la preuve maintenant, même si c'est étouffé de partout, certains des décideurs dans ces comités-là, comme par hasard, font partie de comités de certains labos. Ils sont clairement achetés. Et donc derrière. Oui, mais d'accord, mais enfin, sur l'obligation de déclaration de lien, de pas lien, d'influence, etc., je suis désolé, mais là aussi, on a toute la publication de gens qui ne se sont pas annoncés comme étant comme ça. Et on a des noms où ces gens payés par les labos, enfin on peut acheter, je veux dire, moi c'est pour être plus provocateur, pénètrent aussi bien les ministères, quels que soient les ministères, de droite comme de gauche, ils ont tous été comme ça, aussi bien au niveau national, français, qu'européen. Et donc quand vous parliez tout à l'heure de mise sur le marché, d'autorisation de mise sur le marché, c'est donné à la vie parce que les comités ne sont plus indépendants, parce que l'État n'a plus la capacité d'être indépendant, puisqu'il a démonté lui-même, alors j'aimerais dire pourquoi, il a démonté lui-même tous les labos qui avaient vocation à être indépendants, parce qu'ils appartenaient seulement à l'État. Alors derrière, ça pose de vraies problématiques. Quand vous parlez des vaccins, moi tout à l'heure, je vous ai écouté attentivement, depuis le début, quand vous parlez de Napoléon. Alors j'ai l'esprit tordu sûrement, mais je me dis Napoléon, qui était loin d'être con, s'est dit, notamment vous parliez de la Russie, il s'est dit j'ai quand même besoin de tirer un canon, parce que c'est comme ça que ça marchait à l'époque.
Absolument.
Si mes comptes français meurent bêtement avant même que j'ai le temps de leur filer un fusil qui monte en Russie,
tout à fait.
Je vais prendre une peignée. Je prends des points comme ça. Hein.
Non, vous avez tout
pour,
à fait
pour dire qu'il y a un fil, et je ne le connaissais pas, mais quand je vous ai entendu, je suis resté assis, muet et concentré, et je réfléchissais, je me dis, bon Dieu, l'homme est quand même assez vicieux, et de tout temps. Et après, vous parlez de ces médicaments, de ces vaccins, pardon, qu'on envoie en quantité industrielle dans des pays qui, malheureusement, n'ont pas assez d'argent. Et je me dis, comme par hasard, l'exemple que vous prenez, alors, je m'en souviens plus, mais on va dire la grippe.
Le Niger ?
Oui, voilà. Je prends la grippe parce que ça me permet de faire le lien avec le suivant, hein, le paragraphe suivant qui vient. On leur envoie les vaccins qu'on n'a pas pu, qu'on a fait payer aux mecs en France qui ne les avaient pas voulu.
Ça, c'est l'histoire de la grippe en Égypte.
Il y en a des stocks. On va les envoyer là-bas de toute façon. S'ils ne sont pas bons, ce n'est pas grave. Comme de toute façon, ils ont tellement de trucs pour mourir, un de plus, un de moins, ils ne verront pas dans le tog. On leur envoie, puis en plus, on fait de la com. Merci pour la com, UNICEF. Oui. Alors, mais il n'y a pas que l'UNICEF hein, là-dessus. Il y en a d'autres. Et chacun fait sa com. Le gouvernement machin a aidé les pauvres petits de là-bas. Il leur a envoyé des saloperies. Quoi, voilà. Et avec tout ça, et on voit de plus en plus quand même, la financiarisation à l'extrême de tous ces produits-là, quand on sait un petit peu comment marchent les autorisations de mise sur le marché, il suffit qu'ils changent une lettre dans un des produits pour qu'ils disent que c'est un produit neuf super performant. C'est le labo qui fait le dossier sur lequel les fameuses commissions indépendantes devront se prononcer. Mais il n'y a pas de contradiction dans ce dossier, puisque seul le labo est à même de prouver que sa molécule est excellente.
Donc forcément, quand on donne un dossier qui est cette fois pas à charge, mais au contraire valorisant, il peut être que bon. Et donc on est inondé de choses comme ça. Et quand j'ai dit tout ça, je dis à la fin, la population, elle commence par, quand même par s'informer. Elle s'informe, et malheureusement, par Internet. Parce qu'on a de tout sur Internet. On a Absolument. Le pour, le contre, et malheureusement, votre Absolument. Discours, les discours de scientifiques qui sont ici, dans la salle, ne sera pas mis en valeur. C'est celui qui va faire un peu comme je fais en ce moment. Je vais à l'extrême et je pousse de tirer des grands traits. C'est pas scientifique, c'est que des mots comme ça lâchés. Et ben, ces discours-là qui sont lâchés, qui ne sont pas étayés, cela passe. Et donc, on a une peur dans le public qui se crée.
Absolument. Non,
et pour casser la peur, on va avoir du mal. Oui. Parce que tous les arguments que j'ai donnés tout à l'heure, j'en ai d'autres encore sur la grippe H1N1. Oui. Qui vous prouve que Mme Bachelot, avec tout le respect que je lui dois peut-être, s'est faite vacciner avec un vrai vaccin?
Je n'y avais pas pensé.
Oui,
je n'y avais pas pensé.
Voilà. Alors, à un moment donné, moi, je vois bien l'hypocrisie partout, et je me dis, à un moment donné, mais les gens, ils vont faire quoi? Je suis tranquille, mes deux enfants sont vaccinés, ils ne sont plus en âge. Le problème est pour eux maintenant et pour mes petits-enfants. Quelle décision vont-ils prendre? Je suis incapable de le dire.
Oui, non, mais c'était Daniel Arsicault.
Oui, j'en reviens au vaccin, au BCG. Le BCG, c'est pas quelque chose, c'est pas une croûte qui a été prise pour faire un bacille quelconque pour vacciner. Camille Guérin était, on l'a dit tout à l'heure, était un vétérinaire. Et il a cherché, oui, sur des lapins, mais il a surtout cherché avec des bœufs, des vaches, qu'un certain... j'ai perdu le nom du vétérinaire, qui était directeur des abattoirs de Lille, lui procurait. Il a fait le BCG, enfin, il a trouvé ce bacille Calmette, puisqu'il a associé Calmette à son vaccin. C'est lui, le vétérinaire, qui, je crois, quand même, a apporté 90% du BCG, avec de la bile de bœuf et de la pomme de terre. Parce qu'il a remarqué que la bile de bœuf, c'était un corrosif. Et il fallait
Un émulsionnant.
Oui.
Style mayonnaise. Oui. Un peu comme
Je le mets sur du fer, hein, c'est corrosif. Bon, j'en prends peut-être pas le mot qui convient, mais pour moi, c'est un corrosif. Et la pomme de terre, vous la coupez, elle devient violette. Il a trouvé ce truc-là. Et, ma foi, il a travaillé ça sur ses animaux, puisque le père Bossu, puisqu'il s'appelait Bossu, le directeur vétérinaire, lui procurait des bestiaux. Puis un beau jour, il a mis 20 bêtes. Il y avait une belle photo dans son bureau à Lille que j'ai vue. Et là, il avait mis 12 vaches d'un côté et 12 vaches de l'autre. Et puis, ma foi, il a risqué ce qu'il venait de trouver avec sa bile de bœuf. C'est-à-dire, et le bacille de coq qu'il a ajouté pour faire un bacille atténué. Et, incroyable, mais il a vacciné 12 vaches avec sa découverte. C'est comme ça que ça s'est fait. Avec ça, et il a mis le bacille de coq sur ses 12 vaches, et ensuite il a mis aussi le bacille de coq sur les 12 autres. Celles qui n'avaient pas été vaccinées, eh bien, ma foi, en crevaient dans les 6 mois. Et puis les autres, ben voilà, elles ont prospéré, peut-être sont-elles parties au pré.
La dernière question. Attends, il faut prendre.
Je voudrais juste savoir le Haut Comité et puis et l'Académie de médecine. Il n'y a pas de relation. Vous travaillez ensemble ou ça n'a rien à voir?
Le Haut Comité de santé publique, c'est une structure qui a été créée, je crois, en 2004.
Ah d'accord.
Parce qu'en ce moment, et ça rend très difficile à lire l'organigramme. On a créé de multiples agences et de multiples... Il y a la Haute Autorité de Santé publique, le Haut Comité de Santé publique, il y a l'Institut de ceci, etc. L'Académie de médecine, c'est un corps académique dont le rôle, il faut bien le dire, historiquement, a beaucoup, beaucoup régressé par rapport au temps de Pasteur, où c'était le forum où toutes les questions se débattaient. C'est un corps dont l'importance a beaucoup régressé. C'est un corps de sages, etc. Ceci dit, les dernières années, l'Académie, justement, a voulu reprendre un petit peu le flambeau et intervenir. Donc le débat public actuellement, il est d'une certaine façon compliqué par la multiplicité des instances. Moi, depuis que je suis au comité, je m'aperçois de la complexité de la situation parce qu'il y a 36 instituts, 36, etc. C'est parfois un petit peu désordre. Mais ça peut nourrir aussi un débat varié, à condition que vous ayez le temps. Parce que je vous engage bien sûr à lire la littérature produite par tous ces instituts. Mais alors, pour les... Qu'est-ce que j'ai fait de mon sac ? J'avais apporté pour vous montrer, il y a deux choses qui sont quand même des sources... excuse-moi, Anne. Il y avait, pour ceux qui veulent prendre du temps et puis lire de façon, dans quelque chose qui est quand même lisible, d'abord vous avez la source des recommandations actuelles qui vous feront le point, ce qui ne veut pas dire que c'est ce qu'on dira dans deux ans. Mais pour le moment, il y a le bulletin épidémiologique hebdomadaire, je crois que je ne l'ai pas apporté, bah, vous tapez bulletin BEH, bulletin épidémiologique hebdomadaire, et vous aurez des recommandations qui vous intéressent peut-être. Aussi, il y a eu un numéro spécial sur les voyages. Donc, quand vous partez quelque part, vous pouvez savoir quel vaccin, et c'est actualisé. Ça, ça peut être utile parce que vous voyagez tous, les petits les enfants et petits-enfants voyagent, etc. Et ce numéro, je n'ai pas d'intérêt dans le... si ce n'est que j'y ai participé, mais je trouve que c'est un numéro excellent de Médecine Science, qui est une revue de vulgarisation plutôt de haut niveau. Et vraiment, honnêtement, ce numéro sur les vaccins, moi, je le trouve excellent. Alors, je crois qu'à partir d'un certain moment, c'est aussi en ligne. Donc, vous n'êtes pas forcé, vous pouvez le consulter dans une bibliothèque, mais je pense que si vous tapez Médecine Science, vous aurez accès au sommaire et vous pouvez trouver le... Parce que ce numéro doit dater de 1 ou 2 ans. Après 1 an, c'est en ligne. Voilà, et donc, je fais la réclame parce que c'est une... moi, je trouve une bonne revue.
En fait, je voulais juste savoir si les vaccins peuvent affaiblir l'organisme ou pas.
Pardon ?
Est-ce que les vaccins peuvent affaiblir l'organisme ou pas ?
Les vaccins peuvent ?
Affaiblir.
C'est une question à laquelle ce n'est pas possible de répondre. Un vaccin, et c'est ce que j'aurais voulu illustrer avec un schéma du système immunitaire, autre que celui que je vous ai montré en 1900, c'est quelque chose de très compliqué. On peut très bien imaginer qu'intervenant ricochant avec tous les anticorps, les molécules, les machins, etc., ça induise un certain effet de fatigue ou de... C'est pas impossible. Et c'est très difficile à interpréter. Si vous posez la question aux gens s'ils sont fatigués après un vaccin, c'est tellement une question cérébrale.
On se sent fatigué.
Si vous avez décidé de vous sentir... C'est comme après une prise de sang. Je parle pas d'une prise de sang d'une petite, mais quand on donne du sang. Est-ce que vous êtes fatigué en sortant ? Ben, vous pourrez demander aux gens, les uns disent oui, les autres disent non. Autrefois, on donnait un sandwich parce que c'était supposé vous requinquer. Maintenant, vous n'avez plus... Je crois que le sandwich a été complètement supprimé. Bon, parce que ça fait des économies. Je crois que c'est ça, c'est pas une explication physiologique. Honnêtement, je crois pas que ça soit, enfin, que ça soit important. Et c'est sûr que c'est un petit événement du système immunitaire. Mais d'un autre côté, le système immunitaire, c'est comme la Samaritaine. Il se passe toujours quelque chose. Vous prenez le métro, vous rencontrez quelqu'un qui vous tousse dans la figure. Vous avez constamment des rencontres avec des microbes en tout genre. Donc c'est d'ailleurs ce que doit montrer un peu votre exposition. La vie est un fleuve qui n'est pas tranquille et qui est plein de dangers. Donc moi, je pense, et c'est d'ailleurs le raisonnement des partisans, de certains adversaires à la vaccination, de dire... On se vaccine tous les jours. C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, etc. J'ai pas de... Actuellement, il y a tout un discours sur l'immunité naturelle qui est induite, non pas tant par les rencontres désagréables de microbes dans le métro, mais par l'ingestion de substances qui renforcent vos défenses immunitaires. Au premier lieu, l'ail, l'huile d'olive, quoi encore Pardon ? Enfin, le bio est en pleine... La médecine alternative aussi. Je ne saurais pas dire... Un des sujets probablement les plus mystérieux, c'est celui en quoi l'alimentation, par exemple, modifie le système immunitaire. Ceci dit, la planète est pleine de gens qui mangent surtout du riz, surtout des pâtes, surtout du couscous, surtout machin, et finalement, bon, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Je ne sais pas. Là, c'est pour une autre conférence et je ne suis pas sûre que j'aurai les idées aussi claires.
Il y a aussi quand même une incidence générationnelle. Hein. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte que les jeunes parents sont très très sceptiques.
Ah ben, ils sont sceptiques.
Il y a une nouvelle orientation, mouvance là.
Ils sont sceptiques. Ça, c'est tout à fait.
C'est pas
vrai.
Sur notre génération à nous.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai passé 8 jours avec une jeune Russe et son bébé, et très bio. Elle était très bio, très alternative. Elle habite à Saint-Pétersbourg. Et puis tout d'un coup, je découvre que son bébé de 17 mois n'est pas vacciné du tout. Alors là, vous voyez bien comment moi, j'ai essayé de vous donner une vision équilibrée, pas une vision caricaturale. Ni en, bon. Et là, j'étais... Oh, j'ai dit, hein, ton bébé a 17 mois, il vit en Russie, et tu ne le vaccines pas contre la diphtérie et le tétanos, mais... Ah, elle m'a dit, non, il va se constituer une immunité naturelle. Je lui ai dit, mais dans le métro, il va rencontrer des tuberculeux, surtout à Moscou. Et elle m'a dit, ah ben il voyagera pas dans le métro, je ne le promènerai qu'en voiture. J'ai dit, mais un jour il échappera à sa mère, comme tout fils doit le faire, et il prendra le métro tout seul. Donc c'est... Ah non, mais les jeunes... Parce qu'il y a aussi l'élément contrainte. Il y a aussi l'élément contrainte qui n'est plus supporté.
Peut-être
Non, je pense. Oh, oui, mais je pense que vous avez commencé votre conférence aussi par ça, en montrant la différence entre le risque et la limite haute. Pardon, je l'ai oublié, je l'ai imagé comme ça. Autrefois, les gens étaient sûrs. Vous disiez, vous, 7 sur 10 mourraient. Bon, donc forcément, les gens étaient forcément sensibles à ça. Maintenant, on n'en voit plus. Au contraire, on commence, et notamment le bulletin, la publication hebdomadaire l'a mentionné dernièrement, hein, en région parisienne, en montrant qu'il y avait franchement une recrudescence. Bon, voilà, c'est le bulletin d'alerte. Voilà, hein.
De quoi? De la rougeole?
Oui, mais en plus, on vise. Mais oui, mais...
La rougeole.
Oui, ben voilà. Ce que je veux dire, c'est que les jeunes ne sont plus confrontés à cette mortalité infantile grave. Donc, ben, pour eux, il n'y a pas de raison. Ils n'ont pas vécu ça, eux, à l'école. Donc, il n'y a pas le risque. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils fassent courir un risque à leur progéniture.
Absolument.
Alors qu'il n'y a pas de risque.
Absolument.
Mais on rompt bien la chaîne, et vous l'avez bien montré, par contre.
Ça, ils vont pas jusqu'au bout là.
Bon, merci à tous pour cette soirée sympathique et encore merci Anne-Marie Moulin.
Merci à vous.